Session de rentrée des Trois Sagesses, Père Marie-Dominique Philippe, 15 septembre 1997, deuxième cours à Saint-Jeudard.
Deux petites questions. Quelle différence y a-t-il entre sagesse théologique et sagesse mystique? La sagesse théologique, d'une façon générale, va impliquer une sagesse mystique. Vous voyez, dans la sagesse théologique, il y a la sagesse scientifique que Thomas d'Aquin est le premier dans l'Église d'avoir travaillé. Avant lui, on n'en parle pas. Pierre Lombard ne fait pas une sagesse scientifique dans la sagesse théologique. Autrement dit, la sagesse théologique a des modalités très diverses au cours de l'histoire de l'Église. Ceux qui veulent s'intéresser à ça de façon particulière, je leur indique dans le dictionnaire de théologie catholique l'article théologie écrit par le père Congard. C'est d'ordre purement historique. Mais c'est intéressant de voir que la sagesse théologique a pris des formes très diverses. Alors, ce n'est pas pour vous le moment peut-être actuel de le faire. Ce sera quand vous serez à Raymond. Vous verrez la place dans l'histoire de la théologie, de la sagesse théologique, la place de Thomas d'Aquin, qui précise une sagesse, une théologie scientifique. Mais dans la théologie, il y a une théologie biblique, il y a une théologie de l'Église, et puis il y a une théologie mystique. Et puis il y a aussi l'aspect fondamental de la théologie, qui est un peu un aspect critique, réflexion critique. Parce que la théologie est complexe. Pour Thomas d'Aquin, elle peut être scientifique. Mais il ajoute tout de suite d'une science subalternée, c'est-à-dire une science qui n'a pas son autonomie parfaite. Elle est subalternée à la science du Christ, à la science des saints. Parce que le statut d'une science subalternée, c'est une science qui ne peut être science que grâce à une science plus élevée à laquelle se rattache. C'est ça le propre d'une science subalternée. Ce n'est pas... Toute science a une certaine autonomie. Elle a sa perfection dans son développement. Mais il peut y avoir des sciences subalternées au sens aristotélicien du terme. Et pour Thomas d'Aquin, la théologie scientifique est subalternée par la foi à la science des saints. Et la science des saints s'achève dans la vision béatifique. Alors, au sens strict, la science, la vision béatifique, a comme un rayonnement pour le Christ, qui est la science infuse. Je dis bien un rayonnement, c'est pas une dépendance directe. Il y a la science infuse en Christ. Et c'est beaucoup plus à l'égard de la science infuse qu'il peut y avoir subalternation. C'est grâce à la science infuse du Christ qu'il peut y avoir une sagesse théologique. Mais elle demeure subalternée à cette science infuse du Christ. La sagesse mystique relève du don de sagesse. Elle est infuse. La sagesse mystique, elle est infuse. Tandis que la théologie infuse est acquise. Je n'ai pas précisé assez ce matin. Là, il peut y avoir confusion. Mais avec le baptême, nous avons reçu la grâce. Si nous avons perdu la grâce par le péché, nous pouvons, en demandant pardon à Jésus, recevoir de nouveau cette lumière de foi qui nous est donnée grâce à la grâce, qui nous est donnée par l'intermédiaire de la grâce. Mais nous pouvons aussi garder la foi ayant perdu la grâce par une faute grave qui enlève la charité. Mais la foi peut rester. Ça, c'est très important de se le rappeler. Alors, il y a une question très délicate. C'est quelqu'un qui a perdu la foi, qui a perdu la charité, faute grave, qui a voulu se séparer du Christ, qui ne veut plus rester dans une relation d'amitié à l'égard de Jésus. Il perd la grâce, mais s'il ne perd pas nécessairement la foi, pour perdre la foi, il faut commettre une faute grave contre la foi. De sorte que la théologie acquise, la théologie scientifique que saint Thomas a élaborée dans sa somme théologique. Saint Thomas étant un saint, il ne le savait pas. Mais saint Thomas n'a, je crois, jamais dans sa vie une faute grave où il aurait perdu la charité. Donc, saint Thomas, dans l'exercice de sa foi, exerçait sa foi sous l'emprise de la charité. Il avait donc une foi, ce qu'on appelle une foi formée par l'amour, par la charité. Et sa somme théologique, il l'a faite avec une charité transformée dans son exercice par la charité. Mais les scolastiques qui ont suivi Thomas d'Aquin ont traité de la question de savoir si une foi informe, c'est-à-dire une foi chez quelqu'un qui a perdu sens tout à fait strict, formel. La foi avec la sagesse philosophique suffit pour acquérir la sagesse théologique, scientifique. Mais il est évident que si la foi n'est pas une foi vivante, ma foi n'a plus la même acuité, la même pénétration. Alors, la théologie scientifique n'aura plus la même pénétration. Elle peut exister sans la charité, mais elle est mal à l'aise sans la charité. Ça grince un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Quant à la théologie mystique, je crois que cette partie de la théologie qui est aussi acquise, mais qui présuppose certaines expériences personnelles dans une foi formée par la charité. Je crois que la théologie mystique ne peut être élaborée que si on a la charité. Oui, là, je pose un point d'interrogation. C'est une question très débattue. Il ne s'agit pas d'arriver avec des gros sabots. Et c'est comme ça. Attention, attention. Vous voyez, c'est toute la question du statut de la théologie. La théologie implique une coopération entre le croyant de foi chrétienne et l'intelligence humaine, et n'importe quelle philosophie, mais une sagesse philosophique, si on peut, on reviendra là-dessus. C'est intéressant. Mais ce sera surtout intéressant pour vous quand vous serez en théologie. Il faut savoir que c'est une question disputée, qui a été très très disputée par la scolastique. Alors si on veut la regarder d'une façon plus directe et plus simplement, je crois qu'on doit dire que une théologie scientifique élaborée à partir d'une foi qui n'est pas transformé par la charité, on sera toujours en présence d'une théologie, peut-être scientifique, mais très imparfaite. Parce qu'au fond, pour être subalterné à la science des saints, c'est du côté de la subalternation qu'il y a là une question grave, importante à voir. Parce que la subalternation exige une dépendance vitale à l'égard de la science supérieure. Ce qui est sûr, c'est que la théologie mystique ne peut s'élaborer que si on a un contact vital d'amour avec les expériences mystiques des saints qui relèvent du don de science, don du Saint-Esprit. Nous avons tous le don. sagesse philosophique acquise. Un gosse, un enfant, un tout petit enfant, dans son berceau, n'a pas la sagesse philosophique. Non. Mon intelligence, au point de départ, quand j'apparais dans le monde, a une intelligence qui n'a pas cette sagesse acquise. Acquise à partir de l'expérience et à partir des opinions des philosophes, des diverses opinions, les deux sources de cette sagesse philosophique acquise, qui ne sont pas égales. Étudier l'opinion des philosophes, ça noue mon intelligence, puisque ces opinions sont diverses, ça m'aide pour poser des questions intelligentes, ça ne me donne pas la solution, ça reste des opinions. Et je cherche à partir de là la vérité, une vérité acquise. La sagesse théologique, c'est la théologie, si vous voulez. Il y a la philo et la théologie acquise. Va se diversifier en théologie. Peut faire de la théologie mystique sans être un grand mystique. Mais je crois qu'il faut toujours avoir une certaine expérience du mystère du Christ, expérience interne. C'est pour ça que très souvent, la théologie mystique présuppose la prédication. Que celui qui n'aurait pas l'expérience de la communication du mystère chrétien, du mystère du Christ, et une prédication qui veut vraiment convertir les hommes, ce qui ne peut se faire que sous l'action de l'Esprit Saint. La théologie mystique est très peu développée, même chez des thomistes. Alors que saint Thomas note qu'il y a une théologie mystique. Alors la théologie mystique est acquise et elle se distingue du don de sagesse. Le don de sagesse me permet de vivre une vie cachée d'intimité avec Jésus. Et je découvre alors, par le don de sagesse, l'alliance. encore hier, évêque de Bourges. Et c'est lui qui chargeait de la nouvelle Ratio Studio Room pour les grands séminaires. Et il m'a dit ce qui est terrible aujourd'hui avec l'enquête qu'on vient de faire dans tous les grands séminaires. On l'a pas fait ici parce qu'on est religieux. Mais l'enquête qu'on a faite tous les séminaires, on a vu qu'on n'enseignait plus la métaphysique, qu'on n'enseignait plus la philosophie réaliste. On enseigne les diverses philosophies, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie, comme on fait en Sorbonne. Mais on n'enseigne plus la sagesse philosophique. Oui. Alors, il m'a dit, comment voulez-vous qu'on puisse encore avoir des théologiens? Si on continue comme ça, dans quelques années, il n'y aura plus de théologie. Il y aura des théologies à partir non plus d'une philosophie recherche de la vérité, qui implique le point de vue de la recherche de la vérité, mais on aura une théologie à partir de la phénoménologie, à partir du platonisme, et ainsi de suite. Oui, on retombera dans la diversité. C'est pour ça que certains disent qu'il n'y a plus de théologie aujourd'hui. Parce que il manque une réflexion philosophique. Alors c'est ça qu'il faut bien saisir. Comment la sagesse théologique présuppose la sagesse philosophique? Évidemment, c'est à partir de la foi, en premier lieu, mais c'est aussi avec la sagesse philosophique, en second lieu. La théologie est une connaissance complexe, qui implique foi et sagesse philosophique. Alors, autre question, que reste-t-il de la philosophie du réel? Que reste-t-il de la philosophie, oui, réaliste? Celle qui découle la vérité au ciel. De quelle manière demeura-t-il au ciel? Une philosophie qui atteint la vérité a quelque chose d'éternel. Voyez, qui dit sagesse? Qui dit sagesse? Quelque chose qui est au-dessus du temps. La sagesse implique la contemplation. Et la contemplation, c'est la contemplation de Dieu, autant qu'on peut la voir sur la terre, autant qu'on peut la voir au point de vue philosophique. C'est la contemplation de Dieu. Donc c'est une contemplation qui a quelque chose d'éternel. C'est pour ça que la philosophie réaliste, qui part de l'expérience, qui cherche la vérité, est une philosophie qui a quelque chose d'éternel. Et qui demeure dans le ciel. Alors, tranquillisez-vous, il n'y aura plus de cours de philosophie, de métaphysique au ciel. mais il y aura, comme disent les théologiens, extra verbum. Vous savez, quand les théologiens font l'étude de la béatitude du ciel, de la vision béatitude, aimer avec une intensité plus ou moins grande tel ou tel prochain, tel ou tel frère. Bien, ça restera éternel, ça. Tout acte de charité fraternelle est éternel. Il n'y a pas que la vie contemplative. Parce que l'amour, la charité, l'agapé, à ces deux directions. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, cela conduit à la vision béatifique. Et aimer le prochain comme soi-même, l'aimer comme Dieu l'aime. Et nous l'aimerons comme ça, comme Dieu l'aime. Donc vous voyez, quand vous posez la question, que restera-t-il de la restera-t-il du monde physique au ciel, notre monde physique? Une forêt, les animaux, que restera-t-il du lion au ciel? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus peur du lion, si le lion reste. Qu'est-ce que restera-t-il du loup? Restera-t-il des araignées et des puces et des poux? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les animaux, normalement, ne resteront pas. Notre monde physique sera complètement transformé. N'existera plus que dans les corps glorieux. C'est très possible. Un corps glorifié n'a plus besoin de l'atmosphère et de respirer. N'a plus besoin du milieu physique dans lequel nous vivons. Donc il n'aura plus besoin d'un monde physique, comme le monde d'aujourd'hui. Les étoiles, les galaxies n'auront plus de raison d'être. Elles sont là pour maintenir un équilibre à travers l'univers et permettre l'atmosphère d'exister pour que nous puissions répondre, puisque nous puissions respirer. C'est très mystérieux, ça. Notre monde physique sera complètement transformé pour être en connaturalité avec notre corps glorieux. Le monde physique est créé par Dieu pour que nous puissions vivre. Et le monde est notre glorification. Notre âme et notre corps n'aura plus besoin de ce monde physique et de ce milieu vital. Mais Dieu transformera ce monde physique pour permettre à nos corps glorieux de pouvoir s'exercer dans un monde nouveau. Alors, en continuant avec ce que j'ai dit ce matin, c'était très schématique, ça reste schématique, simplement pour vous montrer l'importance d'étudier la philosophie. Parce que c'est une sagesse. J'y reviendrai là-dessus. Deuxièmement, si nous faisons de la philosophie, c'est aussi par obéissance à l'Église. Du moins, les étudiants religieux de Saint Jean, les sœurs, ce n'est plus tout à fait la même chose. L'obéissance à l'Église est moins directe. C'est pour ça qu'elle ne passe pas d'examen. Si elle s'en passe, c'est elle qui trouve que c'est bon, en vue de travailler d'une façon plus forte. Mais nous, nous passons des examens parce que l'Église le veut. Et donc, nous faisons de la philosophie dans l'obéissance à l'Église. Et à Saint-Jean, on fait de la philosophie pour obéir spécialement au Saint-Père, qui me l'a demandé. son ton ironique. Plus d'une fois, il m'a dit, dites-moi, Père Philippe, où enseigne-t-on encore la métaphysique, la vraie? C'est le souci, pape. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de sagesse philosophique, il n'y aura plus de théologie scientifique. Il n'y aura plus de théologie tout court. Il restera quelque chose de descriptif. Il restera une sorte de théologie biblique et d'exégèse. Mais il n'y aura plus de théologie scientifique. Et ça, c'est un des grands soucis du pape. Savoir où en est l'état de la philosophie dans les grands séminaires. Y a-t-il encore une métaphysique? Quand il m'a posé la question, j'ai dit, très Saint-Père, à Saint-Jean d'Arc, on fait encore une métaphysique sérieuse. Et on essaie de maintenir cette recherche de la vérité. Et c'est pour ça qu'on la continue, obéissance à l'Église. Et on comprend très bien comment l'Église désire que notre intelligence soit purifiée par une sagesse acquise, philosophique, et qu'on maintienne une telle recherche à travers tout. C'est important. C'est même très important. Non seulement parce que Dieu, qui m'a donné et qui nous a donné à chacun d'entre nous une intelligence, n'aime pas de voir qu'on enfouit des talents. Et il veut qu'on soit intelligent pour lui. N'importe quelle philosophie peut être au service de l'Église. vie doit-elle être enseignée pour de futurs prêtres? Ou au contraire, ne doit-elle pas être enseignée? Et voyez, ce sont ces questions-là qu'on ne se pose pas assez. Exigeant qu'elle soit suivie, il y aura peut-être des pleurs et des grincements dedans. Alors, il vaut mieux pas, pour ne pas perdre de temps, nous mettons tout de suite dans la perspective la plus profonde dans laquelle l'Église se met. Ces questions pour travailler intelligemment. C'est très bien d'obéir, mais quand on fait de la philosophie, c'est pas suffisant d'obéir. Tu restes d'une façon régulière. On aime bien de comprendre un peu ce qu'on fait, même quand on est croyant. Obéir à l'Église pour le plaisir d'obéir, ce qui est assez rare, ce n'est pas de notre génération. La génération précédente pouvait encore avoir le plaisir d'obéir. Mais aujourd'hui, pas tout à fait. Alors, il faut comprendre pourquoi l'Église.